le goût du monde. Clémence Denavy.
Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est le goût du monde, l'émission qui regarde ce que l'on mange, partage, de quelle manière et ce qui se raconte de nous à travers ce que nous mangeons, notre histoire. On l'aime la cuisine pour les sous-titres de la vie qu'elle nous offre, l'air de rien pour les recettes dans lesquelles se reflète l'histoire avec un grand H. Et puis, c'est une excellente détective aussi, comme notre invitée. Bonjour Alessandra Pierini.
Bonjour Clémence.
Bienvenue.
Merci beaucoup, je suis très contente d'être là.
Et c'est partagé. Comment vous présenter? Je me suis posé la question parce que vous êtes autrice, vous êtes cuisinière, vous êtes passionnée de gastronomie et d'histoire. Vous aimez, comme nous ici, je crois, les voyages aux détours inattendus. Que permet la cuisine? Et celui d'aujourd'hui l'est à bien des égards. Car nous allons nous asseoir à la table des filles aujourd'hui, des maisons de plaisir en Italie, peut-être aussi un peu à Paris, et partager avec elles un repas de pasta et fagioli sans doute.
Par exemple.
Par exemple, oui. Entre autres. C'est l'une des recettes de La cuisine des maisons de plaisirs italiennes. Un livre sans pareil, riche, passionnant, étonnant, publié aux éditions de l'Épure. Bien plus qu'un livre d'ailleurs, c'est une plongée par une porte dérobée, celle qui mène à la cuisine, dans un monde parallèle, celui des maisons closes, celui des femmes, des filles. Quel était leur quotidien, quelles étaient leurs conditions de vie à cette époque bien particulière de l'entre-deux-guerres en Italie, sous un régime fasciste? Comment leur donner à chacune une vie? C'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cette émission. Et d'ailleurs, je vais vous proposer, pour commencer, de nous asseoir à leur table.
Bah oui.
Pourquoi pas? Quels seraient les bruits, les ambiances? Quelle heure serait-il? Que mangerait-on? Où serait-on dans cette maison? Dans des cuisines, des réfectoires ou bien dans une chambre?
Bah, si on mange, on est généralement dans une maison close au réfectoire. Le réfectoire était un peu caché, c'était pas la partie qu'il fallait montrer aux clients. Donc c'était soit au sous-sol, soit vraiment dans un endroit bien à l'abri. Il y avait souvent une porte dérobée qui amenait au réfectoire. À côté, il y avait la cuisine et très souvent aussi une buanderie. Et au réfectoire, la cuisine était préparée généralement soit par une ancienne prostituée qui, pour diverses raisons, ne pratiquait plus le métier, mais elle était toujours fidèle à la maison, ou alors une femme de ménage qui avait aussi quelques qualités de cuisinière. Surtout parce que, à l'époque fasciste dont je parle dans le livre, la cuisinière avait aussi le rôle un peu de préparer une cuisine qui soit aussi une cuisine très saine et qui, elle faisait, elle élaborait les menus, si on peut dire ça, en fait, avec les médecins parce qu'il y avait des contrôles très stricts à l'époque fasciste de ces maisons closes. Et dans un endroit où, paradoxalement, tout ce qui se passait en Italie à ce moment-là, les filles qui habitaient dans ces maisons, elles mangeaient à leur faim. Donc il fallait qu'elles soient en chair, jolies, présentables pour les clients, mais aussi qu'elles mangent pour être en bonne santé. Pas parce que on avait à cœur en fait qu'elles se portent bien ou leur santé ou leur plaisir ou leur joie, pas du tout. Il fallait surtout qu'elles soient bien efficaces pour travailler, pour tenir le coup en fait, et travailler plusieurs heures d'affilée. Et donc elles mangeaient, leur repas principal était pris aux alentours de 18 heures. Parce que l'heure de pointe, si on peut dire ça, dans ces maisons, était vers minuit. On ne parle pas des taudis et des maisons d'abattage où malheureusement, il n'y avait pas vraiment de règles, où les femmes, en fait, elles travaillaient pratiquement tout le temps. Et elles n'avaient presque pas le temps de manger. Mais dans le livre, donc, je parle donc de ces maisons de moyenne, de première catégorie, parce que en fait, les recettes qui ont été retrouvées et qui sont retranscrites dans la cuisine des maisons de plaisir italiennes, ce sont des recettes qui remontent exactement à 1929. Ce sont des recettes bien italiennes.
Et on n'a pas encore pris le dessert, Alessandra.
Donc parlons bien sûr de ce qu'on aurait pu manger à 18 heures. Donc pasta et fagioli.
Est-ce qu'on était toutes les filles autour de la table?
Toutes les filles étaient autour de la table. C'était en fait une organisation un peu comme dans un collège, voire dans un couvent, si on peut dire ça. Tout était très réglementé. En fait, ces filles n'avaient pas de vie personnelle, de vie privée. Elles étaient tout le temps ensemble. Ça arrangeait bien, en fait, aussi la maîtresse de maison pour mieux les surveiller. Donc, elles mangeaient dans ce réfectoire tout autour de la table. Il y avait en Italie une cuisine qui reflétait vraiment la cuisine de l'époque et qui était une cuisine très simple, rustique, mais qui tenait au corps. Donc, de la pasta, pâte fraîche, pâte sèche. Et elle était enrichie ou accompagnée de pommes de terre, généralement, parce qu'elles étaient pas chères, et il y en avait tout le temps, on pouvait bien les garder. De légumes secs, donc de légumineuses, surtout des haricots. L'Italie est riche en légumineuses, dans toutes les régions, du nord au sud, on en trouve partout. Après, on mangeait très rarement de la viande blanche. Si on utilisait de la viande rouge, c'était surtout pour faire un grand pot-au-feu, dont on utilisait surtout les restes et surtout le bouillon pour faire cuire, voire des pâtes farcies, des pâtes, du riz. Enfin, c'était un peu une base un peu riche qui pouvait servir un petit peu à tout.
Je souris parce que, en fait, vous êtes manifestement passionnée par votre sujet, puisqu'on est à peine autour de la table que déjà on a tout le monde, des maisons closes qui se révèlent. Je voudrais savoir l'origine de ce livre, La cuisine des maisons de plaisir italiennes. C'est une surprise aussi.
Une énorme surprise. Je suis tombée sur ce livre, j'étais d'ailleurs avec mon éditrice, Sabine Buquet, des éditions de l'Épure, il y a 2 ans à Forlimpopoli, une petite ville à côté de Bologne. On était allés sur place pour avoir des renseignements, se plonger en fait dans la gastronomie italienne, mais sur un autre sujet, celui de Pellegrino Artusi, qui est considéré le père de la gastronomie familiale italienne. Et on était sur place au moment où on fête cet homme, ce gastronome, qui a écrit en 1891 « La science en cuisine et l'art de bien manger ».
Un de vos succès.
Que j'ai traduit avec un ami gastronome, Stéphane Solier. Et ce jour-là, nous avons rencontré un collectionneur de livres anciens, Vittorio Maltoni. Vittorio a aujourd'hui 84 ans. Il a écrit d'ailleurs la préface de La cuisine et des maisons de plaisir. Il collectionne, Vittorio, les livres de cuisine français et italien. Et quand on s'est retrouvé dans son salon face à toutes ces merveilles, il est arrivé avec un petit opuscule, donc celui que nous avons sous les yeux, que je vous ai apporté aujourd'hui.
Et qui sera sur la page de l'émission.
Donc un petit livre avec une couverture très fleurie, assez gaie, colorée, avec des fleurs. Nous l'avons ouvert. Le titre d'abord de ce livre en français nous a frappé, qui était bien « La cuisine et des maisons de plaisir italiennes ». Ensuite, il y avait des recettes écrites en italien, des recettes assez sommaires. Et surtout, à la fin, il y avait donc une adresse. On parlait d'une rue parisienne, le 6 rue des Moulins à Paris, dans le 1er arrondissement. On est allé voir rapidement et c'était l'adresse à laquelle on pouvait trouver, au début donc du XXe siècle, la Fleur Blanche, qui était une prestigieuse maison close parisienne tenue par une certaine Madame Cora.
Madame Cora.
Et donc, nous avons fait la connaissance de cette femme et donc qui était la tenancière, une tenancière ou bien, d'après mes recherches, elle aurait pu être peut-être aussi une personne d'une certaine valeur dans cette maison, pas forcément la tenancière principale, peut-être une remplaçante, enfin une personne qui était prostituée au début dans cette maison, mais qui avait quelque part fait carrière, et donc qui était partie en Italie.
Mais pas seule.
Mais pas toute
C'est
seule.
Ce qu'on apprend donc en découvrant votre livre, que Madame Cora a quitté la France avec 3 hommes pour une délégation, visite des maisons italiennes. Donc 3 hommes français. Racontez-nous un petit peu dans quel but ils sont partis. Quelle
Alors,
était l'idée?
Les 3 accompagnateurs donc, de Madame Cora étaient eux aussi des tenanciers de différentes maisons closes en France et surtout à Paris. Ils sont arrivés en Italie au printemps 1929. Ils ont été invités par un confrère, si on peut dire que ça, Cesare Albino Bianchi, qui était un fasciste très militant à l'époque, mais qui était surtout le propriétaire de différentes maisons closes en Italie. C'était une figure très connue à l'époque. Et il les a donc invités à ce voyage parce qu'il avait une intention, qui était celle de signer un pacte, une sorte d'alliance. Il avait même donné un nom à cette alliance, l'axe Pamiro, donc comme Paris, Milan et Rome. D'après lui, les tenanciers des maisons closes les plus prestigieuses, aussi bien en France qu'en Italie, auraient dû donc sceller ce pacte pour essayer de mutualiser donc les dépenses, mais bien sûr, surtout, mutualiser tous les gains. Mmh. Et la chose nous montre aussi quelle importance elles avaient, en fait, les maisons closes à l'époque, et l'importance surtout financière qu'elles pouvaient représenter, économique, pour le pays. Mmh. Cette tournée a duré un mois et demi. Ils sont arrivés donc à Milan. Ensuite, c'est Cesare Bianchi qui les a pris dans des voitures et ils ont fait donc un tour en passant par Gênes, Bologne, Florence, Rome et Naples. Là où la prostitution, elle était très florissante. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on sait certainement que quand ils sont rentrés à Milan, au bout d'un mois et demi, d'abord, ils se sont confondus en remerciements parce qu'ils ont apprécié aussi bien l'accueil que la cuisine. Ils ont été partout très bien reçus, mais ils n'avaient pas du tout l'intention de mélanger en fait leur champagne avec la limonade italienne. Monsieur Bianchi, il a failli avoir un infarctus en fait, hein, parce que tout son plan s'était écroulé. Ah,
c'était une formidable affaire, ce qu'il avait prévu de monter.
Quand c'était même incroyable.
Enfin, une affaire de commerce quand même, de chair fraîche, si on peut parler comme ça, de femmes tout autour de, enfin, au sein de l'Europe.
Au sein de l'Europe, et surtout que ce monsieur, il avait en tête aussi de mettre en place, et c'est ce qu'il est arrivé à faire en Italie, mais pas ailleurs, un système qui était, il s'appelait en Italie la quindicina, la quinzaine. Pour avoir un turnover assez important dans ces maisons, il fallait mettre en place tous les 15 jours un renouvellement justement de cette chair fraîche, de façon que les clients habituels puissent changer assez souvent et qu'ils ne s'installent surtout pas trop de complicité aussi entre les clients et les filles. Parce qu'on sait bien que toutes ces filles, c'est malheureuse en fait, c'est ça qu'il faut dire, elles rentraient dans ces maisons parce qu'elles étaient en fait quelque part obligées par une grande détresse, souvent morale, économique, ou leur souvent chassées de leur famille, ou parce qu'elles étaient des vagabondes, ou des femmes justement qui avaient besoin en fait d'avoir un toit et de manger. Elles rentraient dans ces maisons en pensant pouvoir en sortir quand elles voulaient, et surtout elles pensaient de pouvoir trouver un mari, en fait, un de ses clients qui pourrait avoir un peu de compassion et en fait avec un petit peu d'argent qui puisse les sortir et leur garantir une vie meilleure, chose qui n'arrivait pratiquement jamais. Mmh. Et le fait en fait de mettre en place aussi
ces barrières
aussi, ça empêchait encore plus de donner en fait une chance à ces femmes de trouver peut-être un homme qui puisse les sortir de là.
Intéressant aussi avec Madame Cora, qui est la seule femme de cette délégation. Déjà, il y en a une. Il faut savoir cependant que à l'époque, les femmes devaient diriger les maisons closes et non pas les hommes. Les hommes étaient aux affaires, ils chapeautaient ces maisons, peut-être un peu de loin. Mais qu'est-ce qui vous a le plus interpellé quand vous avez découvert ce cahier, ces recettes, et qu'une femme, tenancière de maison close, ait pris la peine de noter des recettes de cuisine? Qu'est-ce qui vous a interpellé?
Alors, c'est quand même incroyable que de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, on retient en fait que les recettes de cuisine, d'une cuisine qui n'était pas connue, dont on parlait jamais. Et donc, j'ai essayé de me documenter parce que je n'arrivais pas, en fait, dans ce qu'on avait, en fait, dans ce manuscrit. Il n'y avait pas du tout la réponse. C'était pas ces recettes écrites. D'ailleurs, comme on nous dit, en fait, le libraire qui a été, en fait, à l'origine de la trouvaille de ce manuscrit, elles étaient écrites dans des calligraphies différentes. Donc, ça, on imagine qu'elles ont été écrites dans des différentes maisons.
En italien.
En italien. Mais dans ce recueil, il y avait quand même un titre écrit en français. Donc, on imagine donc que ça s'adressait bien, probablement, peut-être à cette maison où travaillait Madame Cora, cette fleur blanche. En fait, après certaines des recherches que j'ai pu faire, ce qu'il y avait de positif dans ces maisons closes italiennes, si comme ça on peut dire, ce qu'on pouvait retenir, c'était en fait l'organisation et la rigueur. Chose qui avait beaucoup moins en France et surtout à Paris, où dans les maisons closes, c'était la fête en permanence, où les filles pouvaient rentrer et sortir quand elles voulaient. En fait, c'était un peu la pagaille. Et pour une tenancière, c'était difficile de les tenir, parfois. Surtout quand elles partaient avec des clients, donc elles n'étaient pas là, disponibles pour le travail. Et surtout, à Paris, il fallait aussi pouvoir appâter les filles les plus jolies, les meilleures, celles qui travaillaient le mieux, avec aussi une cuisine bien particulière. Donc, je pense que Madame Cora est allée chercher en Italie les recettes que, d'après elle, pouvaient être très intéressantes à proposer aux filles de la maison où elle travaillait.
Le petit tatou de séduction pour les filles qui viendraient vivre dans leur maison. Pauline Pan sur RFI, un titre choisi par l'équipe de la playlist de RFI et choisi par Guillaume Munier, le réalisateur de l'émission. Vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde avec Alessandra Pierini, autrice de La cuisine des maisons de plaisirs italiennes. Nous remontons le temps, nous sommes donc en Italie, dans l'entre-deux-guerres, régime fasciste au pouvoir jusque dans les assiettes. C'est dans les murs des maisons closes, à la table des réfectoires que nous sommes. Nous avons parlé de la différence à l'instant des maisons closes à Paris, française et des italiennes. Je voudrais savoir, Alessandra, cette cuisine, que raconte-t-elle du fascisme, justement ?
Cette cuisine italienne de cette époque, elle incarnait vraiment un peu l'atmosphère en fait qu'il y avait en Italie à ce moment-là, une atmosphère sobre. La cuisine était très simple, une cuisine rurale de produits locaux et surtout c'était une cuisine autarcique qui était prônée vraiment par Mussolini quand il est arrivé en 1922 au pouvoir. Il est resté jusqu'à 1943, donc à la fin de la guerre. Et il voulait pas absolument se détacher en fait de tous les liens avec l'étranger. Il voulait manger, consommer uniquement des produits italiens, chose qui peut être très bien. Mais malheureusement, en Italie, on produisait pas assez de nourriture, d'ingrédients pour pouvoir satisfaire tous les Italiens.
Notamment les pâtes.
Notamment les pâtes, parce qu'on importait donc du blé à l'époque et du fait que les importations étaient donc coupées. L'Italie ne produisait pas assez de blé, donc c'est à ce moment-là qu'en 1925, Mussolini, il a démarré celle qu'il a appelée lui-même la bataille du blé. Il a voulu absolument que toutes les autres cultures soient arrachées, voire la vigne et les oliviers, et à la place de tout le reste, de pouvoir planter du blé pour en avoir assez pour satisfaire la population. Il y est arrivé 5 ans après, en 1930, donc il y avait assez de blé pour l'Italie, mais on n'avait que ça en fait. Mmh. On ne cultivait pas autre chose. Donc c'était une cuisine très monotone et surtout une cuisine qui n'était pas là pour subvenir aux besoins des Italiens pour être tout simplement en forme. Il y avait très très peu de viande parce qu'on n'avait pas assez de vaches, bien sûr. Et les vaches qui étaient, c'était surtout des vaches pour la traite, pour le lait. Et en plus, il n'y avait même pas assez de lait, parce que Mussolini voulait absolument qu'on transforme tout de suite le lait en fromage, surtout parce que le fromage pouvait bien voyager. Il se gardait beaucoup mieux que du beurre et du lait, qui nécessitait surtout des réfrigérateurs. Et surtout parce qu'à ce moment-là, il fallait envoyer de la nourriture nécessaire pour la cuisine des tranchées, donc pour les militaires, pour les soldats. Et donc, paradoxalement, on mangeait mieux dans les tranchées que dans les foyers des maisons familiales en Italie.
Et paradoxalement aussi, on mangeait mieux dans les maisons closes, comme vous l'avez dit depuis le début. C'était vraiment des refuges.
Ben oui, parce qu'il fallait absolument, c'était une cuisine, il fallait qu'ils tiennent, donc il fallait servir la patrie. D'un côté, donc les maisons closes, parce qu'elles servaient comme mal nécessaire pour les mâles du pays, et il fallait donc aussi alimenter les troupes. Donc c'était deux endroits vraiment stratégiques où on envoyait en fait une grosse partie de la production italienne.
Pendant qu'à Paris, c'était la fête, en tout cas pendant l'entre-deux-guerres.
L'entre-deux-guerres, c'était la fête, bien sûr. C'était la capitale où on allait quand on avait de l'argent et on pouvait se déplacer, surtout les grandes têtes couronnées, les hommes politiques. Il fallait qu'ils passent par les établissements parisiens, absolument, pour passer du très bon temps.
Et ce pouvait être des endroits où on pouvait se retrouver aussi. Il y avait des salons où les filles étaient avec les clients, mais ce n'était pas forcément dans le travail.
Absolument. À Paris, il y avait des restaurants, il y avait des cercles où on se retrouvait, juste pour discuter, passer un moment parfois même avec sa propre femme. Et on n'était pas forcément obligé de monter à l'étage et aller consommer dans les chambres.
Et d'ailleurs, un peintre dont vous parlez bien sûr dans le livre, Toulouse-Lautrec, y avait ses habitudes, il y a même vécu pour observer d'un peu plus près.
Tu sais parfaitement bien, Maurice, que si la fleur blanche n'existait pas, il y a longtemps que je serais mort. Dieu m'est témoin que c'est le seul endroit où les gens me fichent la paix et où je peux me reposer et travailler. C'est entendu, il m'arrive de passer plusieurs semaines au bordel. Qui cela regarde-t-il? Et quel mal y a-t-il à cela? Ma vieille amie Berthe, du perroquet, y est sous maîtresse. Les pensionnaires viennent dans ma chambre pendant que je peins et la nourriture y est délicieuse. Tu ne peux imaginer les choses que l'on peut voir dans un bordel, mais pour cela, il faut y vivre.
Toulouse-Lautrec, le peintre.
Toulouse-Lautrec, c'est grâce à lui qu'on a d'ailleurs On peut voir en fait des scènes de vie quotidienne de ces femmes parce qu'il les a peintes dans les moments où elles n'interagissaient pas avec les clients. Donc on a une magnifique peinture qui est le réfectoire. Justement, j'en parle dans le livre parce que en quelque sorte, il a inspiré un peu, je pense aussi, cette cuisine qui était aussi une cuisine pour réchauffer le corps, mais probablement aussi, et j'espère, pour réchauffer les cœurs, parce que c'était peut-être le moment où il y avait aussi de la solidarité féminine, où ces femmes se retrouvaient, peut-être qu'elles discutaient, où elles échangeaient aussi des propos, et peut-être c'était le seul moment où elles étaient tout simplement elles-mêmes.
Elles faisaient communauté. Même si la communauté était singulière.
Oui, absolument.
Revenons aux recettes, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Recettes sobres, une cuisine simple, nourrissante, régionale, souvent une cucina povera, cette cuisine pauvre dont on sait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, mais les ingrédients sont bons et on en fait des merveilles. Et de l'absence d'un pilier de la cuisine italienne, le soffritto.
Absolument. Le soffritto, c'est un petit peu cette garniture aromatique qui est composée de ail, oignon, échalote, avec un petit peu de carotte, de céleri.
L'indispensable.
Qui est à la base, indispensable, à la base de toutes les sauces tomates, en fait des ragoûts. Et on ne peut pas vivre sans soffritto. Alors, il n'y en a pas dans ces recettes, mais je pense que c'est surtout pour une raison médicale et pragmatique, parce qu'il fallait donc que ces recettes elles soient très digestes, mais surtout qu'on ait dans ces conditions-là une haleine bien fraîche, chose qu'on ne pouvait peut-être pas avoir avec, si on mangeait beaucoup d'ail et beaucoup d'oignons, surtout revenus frits dans l'huile, dans de la matière grasse. Et puis surtout, parce qu'à l'époque, quand on consommait de l'oignon cru, ça pouvait être l'indicateur que les femmes, elles pouvaient être malades et donc atteintes surtout de syphilis. Parce que l'oignon, c'est un fort antibactérien qui pouvait être consommé cru, accompagné d'un jus de citron, juste pour guérir de cette maladie.
Le goût du monde sur RFI.
Une petite douceur pour terminer peut-être.
Une petite douceur, oui. Mais il y avait des petits desserts très simples aussi, bien sûr, qui correspondaient. C'était surtout des fruits de saison ou alors des fruits comme les châtaignes qu'on ramassait, qui étaient à disposition dans la nature. On en a fait d'ailleurs dans ces recettes une sorte de Mont Blanc, mais dans son plus simple appareil. C'est juste une purée en fait de châtaignes ou de marrons qui était passée en fait au presse-purée pour en faire des fils et tout simplement servi avec une crème fouettée.
C'est le rêve transalpin de Monsieur Bianchi qui s'était réalisé alors, du coup, dans cette association. Merci beaucoup Alessandra.
Merci Clémence.
Merci Alessandra Pierini, passionnante, La cuisine des maisons de plaisir italiennes est parue aux éditions de l'Épure, comme le fameux manuel de Pellegrino, Artusi, la science en cuisine et l'art de bien manger. Sur la page de l'émission, une recette. Est-ce qu'on mettra les pasta et fagioli ou pas? Ou une
Pourquoi
autre?
Pourquoi pas? Il y en a d'autres qui sont aussi pas mal. J'en ai essayé différentes. Donc peut-être les omelettes aux
les
champignons.
Omelettes, absolument. Les omelettes, c'est bien ça. Mmh. Ou une torta di famiglia, c'est bien aussi.
Torta di famiglia, c'est un dessert assez,
assez costaud, roboratif.
Hein. Mais un très joli dessert à la fraise aussi, la mousse aux fraises. Ça, c'est délicieux.
Alors, on choisira. En tout cas, il y en aura une, ça c'est sûr. Les liens pour vous suivre, vous écrire sont sur la page du Goût du Monde. Merci beaucoup à Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de cette émission, à écouter, à partager, à déguster quand vous le voulez, en direct ou en podcast. Si vous avez des envies de menus, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.